Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour notre avant-dernier rendez-vous avec les musiciens qui se produisent cette année au Festival de Rocamadour. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Simon-Pierre Bestion, fondateur et directeur artistique de la compagnie La Tempête, une habitude du festival qui donne les vêpres de Rachmaninov, chef-d'œuvre de la musique sacrée russe, ce lundi 25 août à 21h à l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac. Bonjour Simon-Pierre Bestion et bienvenue à vous aussi sur Radio Présence pour ce nouvel entretien, parce que ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion d'échanger ensemble. Vous en êtes à combien de participations au festival? Je ne sais plus si c'est 5, 6, peut-être 7 même.
Alors bonjour Eric. Oui, en effet, je pense qu'on en est à presque à 6 ou 7 passages, sachant qu'à la première année, on a eu la chance de donner 2 concerts dans le même festival. Donc ça fait quand même un certain nombre de fois et du coup, ça témoigne d'une certaine fidélité, amitié, mais aussi un enthousiasme du public. Donc on est vraiment ravis en tant que La Tempête de revenir à chaque fois à Rocamadour dans ce festival emblématique.
Alors effectivement, il y a un engouement du public, c'est certain, lors de tous les concerts que vous avez donnés ici, que ce soit à la basilique de Rocamadour et depuis quelques années à l'abbatiale de Souillac. Il y a une vraie fidélité, même une amitié entre l'équipe du festival et votre compagnie et vous-même. Mais je crois que c'est basé surtout sur une totale confiance réciproque de part et d'autre.
Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'en effet, le directeur Raymond Rollin a compris quel était l'objet l'identité artistique complète de La Tempête et quelles étaient mes volontés, mes envies dans ces spectacles souvent qu'on offre au public. Et du coup, lui-même est assez curieux à chaque fois de découvrir les nouvelles représentations. On en parle toujours, évidemment, un petit peu, mais il laisse vraiment une très grande marge de manœuvre quant à la façon dont la forme va se dérouler. Ce qu'il apporte vraiment, lui, c'est que le fond soit dans l'esprit du festival et que le répertoire musical soit vraiment adapté. Et puis pour le reste, souvent, il y a une grande confiance pour la forme, voilà, donc la mise en scène, la mise en lumière, etc., qui est un peu la marque de fabrique de La Tempête.
Oui, il y a cette grande liberté qui vous est donnée, et je pense que vous en avez besoin pour créer. Il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est qu'on vous propose des lieux très inspirants, que ce soit la basilique ou l'abbatiale de Souillac, comme je le disais, depuis quelques années.
Oui, en fait, au départ, on a donné plusieurs concerts dans l'abbatiale de Rocamadour. La basilique, oui, voilà, on s'y perd parfois.
Oui.
La basilique de Rocamadour. Et c'est vrai que le lieu est sublime et a une âme incontestable. Mais pour les formats que moi j'envisageais, j'avais besoin d'un peu plus d'espace et de disponibilité technique, en fait. Tout simplement parce qu'il y a très peu de recul dans cette basilique. Donc pour un jeu, un travail de lumière ou de déambulation ou de mise en scène, c'est quand même assez contigu. Donc du coup, depuis quelques années, là, je préfère travailler à l'abbatiale de Souillac, qui a vraiment une architecture qui me plaît beaucoup, à la byzantine, avec ses dômes, plusieurs dômes, et puis cette profondeur, le chœur qui est très beau aussi. Bref, pour moi, c'est plus un lieu de jeu et d'espace dans lequel je peux vraiment m'exprimer.
Oui, la surface et la configuration de l'édifice de cette abbatiale de Souillac vous offre effectivement beaucoup de possibilités en termes de mise en espace. Tous nos auditeurs ne connaissant certainement pas votre compagnie et la forme des concerts qu'elle propose, il faut qu'on précise que La Tempête n'est ni un ensemble ni un collectif, c'est bien une compagnie, un terme plutôt utilisé pour les troupes de théâtre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? En quoi La Tempête est-elle une compagnie et pas un ensemble vocal et instrumental à proprement parler?
Ben, d'une part, elle est composée, qu'elle soit composée de compagnons, c'est-à-dire de gens qui vont faire un bout de chemin ensemble, un bout de route ensemble. C'est pas vraiment l'idée parfois d'un ensemble qui va réunir des personnalités interchangeables. Ici, on est vraiment dans l'idée d'une fidélité et d'un travail avec les qualités de chacun, avec les personnalités de chacun et de construire ensemble dans le long terme, avec ses contraintes, mais aussi la plupart du temps avec toutes les qualités que l'ensemble des personnes va proposer, en fait. Et puis c'est aussi un terme qui a été influencé, comme vous dites, du théâtre et de la danse. Ce sont des compagnies, en effet. Ça désigne en effet davantage ce cercle de gens qui collaborent sous ma direction, avec des propositions qui sont très claires de ma part, mais j'aime bien vraiment faire appel à leur talent et à leur spécificité, à toutes ces personnes qui composent la compagnie. Puis moi, je suis très influencé aussi du monde du spectacle vivant, donc comme on le disait, le théâtre et la danse, qui intègre complètement les spectacles que je crée. Donc à savoir, je fais beaucoup aussi de théâtre musical, à la lisière entre l'opéra, parfois la chorégraphie. Bref, il y a une porosité entre ces arts-là pour moi.
Et il faut dire que vous avez baigné là-dedans depuis tout petit, si j'ose dire, puisque vos parents avaient fondé une petite compagnie de théâtre musical de marionnettes.
Exactement. D'ailleurs, la marionnette ne fait pas encore partie de mes spectacles, mais peut-être un jour. En tout cas, c'était de la marionnette, mais pas uniquement. Mélanger déjà du théâtre, beaucoup de musique qui supportait les spectacles. Donc, d'une part, j'ai baigné dedans parce que c'était leur travail, mais on avait d'autres choix en tant qu'enfant que de participer nous-mêmes au spectacle. C'était une compagnie très familiale. Et du coup, j'ai vraiment appris, d'une part, à jouer un peu au théâtre, à la comédie, à tenir des marionnettes, à faire aussi des lumières et de la musique, parce qu'il n'y avait pas forcément non plus de techniciens sur chaque représentation. Donc oui, ça a été vraiment un pied à l'étrier dès l'âge de 7 ans, quoi, peut-être.
Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que chacun de vos concerts est une création à part entière, y compris lorsque vous reprenez des programmes que vous avez déjà donnés.
Oui, tout à fait. En fait, j'aurais envie de dire que c'est à la fois pour moi, mais aussi pour le public, que chaque représentation doit être une expérience et un renouvellement. J'ai un peu horreur de reproduire un concert, donc du coup, j'ai voulu assez vite et assez tôt que chaque moment soit unique. Puisque la musique est par essence éphémère, autant lui donner une intensité et une unicité qui sera... la recette de chacun des spectacles, pour ça, le mieux, c'est de s'adapter vraiment à chaque lieu, parce que, évidemment, je ne vais pas recomposer mes musiques à chaque concert, mais par contre, pour ce qui est de l'adaptation de la mise en scène, c'est carrément possible d'être dans l'adaptation de chaque lieu. Donc, en effet, le concert que l'on va donner là, Nocturne, nous l'avons déjà donné, ce programme-là, en tout cas musical, dans le cadre... du festival de Rocamadour, mais dans la basilique de Rocamadour. Donc, nous étions un tout petit effectif, enfin, petit pour moi, hein, mais un chœur à 16 chanteurs. Et là, nous serons par exemple le double de chanteurs. Donc, il y a quelque chose de plus enveloppant encore. Et puis, l'espace n'est pas du tout le même. Il est presque 3-4 fois plus grand. Les lumières ne seront pas les mêmes. La création de la lumière ne sera pas la même. La mise en scène ne sera pas la même. Voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que on n'assiste jamais à deux fois le même concert avec la tempête.
Oui, il est important de le préciser, hein, puisque vous avez déjà donné les Vêpres de Rachmaninoff en 2019. Mais c'était à la Basilique, on va y revenir, et on va surtout revenir en détail sur les Vêpres de Rachmaninoff elle-même, l'œuvre au centre de ce concert du 25 août à l'abbatiale de Souillac. Nous allons en écouter un extrait, c'est l'Ave Maria, et il est interprété bien sûr par la compagnie La Tempête.
Oh.
l'Ave Maria des Vêpres de Rachmaninov dans une version enregistrée par la compagnie La Tempête. Je rappelle encore une fois que vous l'aviez déjà donné au Festival de Rocamadour, c'était lors de l'édition 2019, mais à la Basilique Saint-Sauveur. C'est Aymeron Rollin, je crois, le directeur du festival, qui vous a demandé de la reprendre pour cette 20e édition. Bon, il n'a pas dû avoir trop de mal à vous convaincre, puisque c'est manifestement une œuvre que vous aimez beaucoup, au point de l'avoir enregistrée. Pourquoi vous tient-elle autant à cœur? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous?
Ben, déjà, je pense que c'est l'un peut-être des spectacles de La Tempête qui est le plus réussi aussi, parce que ça se voit aussi le nombre de fois on le joue par an, peut-être depuis qu'il a été créé. On l'a créé en 2018, ce spectacle, et depuis, il ne cesse de tourner, beaucoup également dans les pays d'Europe, comme on l'a beaucoup joué en Pologne, en Allemagne ou en Hollande. C'est à chaque fois vraiment un succès, parce que c'est une œuvre qui est très touchante, je crois, en fait. Sa simplicité apparente nous donne vraiment une vraie proximité avec l'auteur, avec Rachmaninov, avec sa spiritualité profonde à cet homme et à son intimité, en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude d'un Rachmaninov assez virtuose et assez grandiose, qui a écrit des pages pour orchestre et piano notamment, qui sont souvent grandiloquentes. Et ici, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, on est vraiment dans une sorte d'intensité permanente du chant a cappella, donc qui dit a cappella dit une fragilité certaine. Et je pense qu'il s'est lui-même aussi mis dans un moule d'une tradition slave, de la musique orthodoxe slave. Son ego ne transparaît pas. Il laisse parler tout simplement sa fragilité, son humanité, à travers ses mélodies. Et puis, il s'inscrit dans une tradition qui fait que le langage est sublime et fonctionne, parce que c'est un langage qui a été maintes et maintes fois utilisé dans les traditions slaves. Donc, on sait que les chœurs russes comme ça sont magnifiques. Donc voilà, il s'est inscrit tout simplement dans cette tradition en apportant sa fibre à lui et puis sa science, évidemment, d'écriture, parce que c'est quand même une œuvre très, très difficile, parfois qui monte à 8, 10 voix, 8, 10, 12 voix même. Il écrit ça quasiment comme un orchestre. Chaque voix est très travaillée quand elles sont autant divisées. Et pourtant, là, les voix les plus intérieures sont aussi importantes que la mélodie. Il y a vraiment comme ça ce travail de l'orchestre où on peut imaginer que l'alto réalise la voix du violoncelle ou le ténor fait le corps. Il y a quelque chose comme ça d'assez similaire à une écriture pour orchestre. Et puis enfin, je voulais juste préciser que le mot vêpre est un petit peu faux, parce que c'est connu sous cette appellation, mais en fait, ce sont les vigiles nocturnes.
Oui, c'est ça, c'est la cérémonie des vigiles nocturnes de l'Église orthodoxe.
Exactement. Qui définit donc à la fois les vêpres, les matines et les laudes. Donc c'est un office normalement qui dure toute la nuit, qui part du coucher du soleil, donc ça c'est ce qui appartient aux vêpres, et qui va jusqu'au lever du jour, qui accompagne en fait la nuit qui peut être porteur d'angoisse, porteur de solitude, de mélancolie, mais aussi d'intériorité, de joie. Et ben ces chants-là accompagne ces moments-là. Donc forcément, c'est une grande intensité. Il n'y a plus de lumière. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du mystère et jusqu'à l'arrivée du soleil matinal. Donc c'est très intéressant, je trouve, aussi comme processus physique et spirituel. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout ça qui me touche dans cette œuvre.
Oui, ces vêpres, vigiles nocturnes, donc de Rachmaninov, sont d'ailleurs considérées comme une des plus grandes compositions réalisées pour l'Église orthodoxe russe. Et c'était une des deux compositions favorites de Rachmaninov lui-même, avec les cloches. Il a d'ailleurs demandé à ce qu'un extrait de ces vêpres soit chanté à ses funérailles. Œuvre profondément mystique. J'ai le sentiment, pour vous connaître maintenant depuis quelques années, que ça rejoint peut-être aussi votre univers, votre intimité, la relation que vous pouvez avoir vous-même avec le sacré, non?
Complètement, oui. Ouais. Dans cette œuvre, il y a une part qui est laissée à l'individu et à l'humain qui écoute cette œuvre. Ce côté mystique est vraiment intense et déclasse. En fait, je pense qu'on pourrait ne pas être orthodoxe, que ça n'y fait rien, quoi. Je pense que tout le monde peut être touché par cette œuvre, tellement elle est presque universelle. Et puis alors, c'est vrai que dans notre version à La Tempête, ce qui la rend encore plus peut-être universelle, c'est que j'ai voulu que ces extraits-là de musique slave, orthodoxe slave de Rachmaninov, soient mis en dialogue avec des musiques orthodoxes également, mais byzantines, c'est-à-dire qui n'ont pas cette origine slave, mais byzantines, donc grecques, donc beaucoup plus tournées vers l'Orient, le Moyen-Orient, le Proche-Orient en fait. Et c'est vrai que le nombre de gens qui ont entendu ça, qui ont dit « Ah, c'est fou, comme ça fait penser à la musique ornée, la musique arabe », oui, il y a dans la musique byzantine tout ce Proche-Orient-là qui nous parle, qui est magnifique, et ça dialogue merveilleusement avec le style slave qui est beaucoup plus harmonique et riche. Là, la musique byzantine, donc il y a un chanteur, un chanteur byzantin que j'invite qui s'appelle Adrian Sirbou, qui est spécialiste dans ce chant-là. On retrouve vraiment toute l'antiquité de ce chant avec ce qu'on appelle les bourdons, les hissons, qui maintiennent le chant, la mélodie principale, et lui qui a une voix très très ornementée, on entendait presque une caverne quand il chante, tellement la voix est puissante et à la fois douce.
Oui, je me rappelle de l'effet qu'avait fait son chant dans la basilique à Rocamadour en 2019. J'indiquais tout à l'heure donc que vous l'aviez donné dans cette basilique il y a 6 ans. Est-ce que ceux qui ont assisté à ce concert à l'époque vont voir et entendre quelque chose de vraiment très différent à l'abbatiale de Souillac?
Oui, de fait, j'ai souvenir en 2019 que je m'étais dit « Aïe, c'est pas un lieu qui est fait pour l'évêque de Rachmaninov, parce que c'est quand même très petit. » Alors que ça demande, vous savez, les interprétations des lettres de Rachmaninov, normalement, chez les Russes, ils sont au minimum 60 chanteurs. 60 chanteurs, c'est impossible dans la basilique de Rocamadour. Ça saturerait beaucoup, les oreilles saigneraient presque de tant de sons. Donc on avait fait une version assez intimiste, presque, on pourrait dire un peu à l'anglaise, de ces vêpres-là, un peu épurées. Là, forcément, à Souillac, l'espace est énorme. Donc on vient avec notre forme habituelle, donc comme je disais, 32 chanteurs. Et là, vraiment, on va pouvoir laisser les voix s'exprimer. Il va y avoir beaucoup plus ce côté slave dans la musique, en tout cas. Et l'acoustique de Souillac le permet. Elle permet cette grande respiration avec des tempos qui peuvent être un peu plus lents, plus majestueux. Ça va être sublime à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, comme je disais, ben voilà, la création lumière et la création de la mise en scène va pouvoir s'étaler dans tout l'espace pour que les gens en profitent au maximum, comme d'habitude, envelopper les gens du mouvement et du son en venant au plus proche d'eux pour parfois leur susurrer à l'oreille les douces mélodies de Rachmaninov.
Vous avez déjà en tête votre mise en espace pour ce concert du 25 août où il y a encore des choses qui vont vraiment se décider lors des dernières répétitions juste avant leur H?
Oui, alors... comme c'est un spectacle qui tourne beaucoup, on a toujours un processus. Et comme c'est un rituel très fort, celui des vêpres et des vigiles nocturnes, j'ai un déroulé qui quand même se retrouve de spectacle en spectacle. Après, c'est vrai qu'il y a une adaptation obligatoire. Et ça, j'aime beaucoup dans les lieux, savoir avant, je travaille souvent sur un plan qui me permet d'imaginer des choses. Et ensuite, la veille des représentations, toujours j'ai mon petit rituel où je viens dans l'église, je m'immerge un long moment, ça dure plusieurs heures généralement, je suis seul plusieurs heures à regarder l'espace tout simplement, et puis à dessiner dans ma tête quels vont être les mouvements qui vont être réalisés. Donc ça va se dessiner davantage encore le 24 et 25 août au moment de la finalisation un peu de la mise en scène.
Nous n'en dirons pas plus, mais nous allons écouter un autre extrait des Vêpres de Rachmaninov dans la version enregistrée par la compagnie La Tempête. Il s'agit du Gloria. Le magnifique Gloria des Vêpres de Rachmaninov dans la version enregistrée par la compagnie La Tempête, l'œuvre que vous allez donc diriger, Simon-Pierre Bestion, ce lundi 25 août à 21h à l'abbatiale de Souillac. Comme j'ai coutume de le faire à la fin d'une interview, je vais vous demander quels sont les projets à venir pour votre compagnie. Je sais que vous fourmillez toujours d'idées, que vous êtes très créatif et que vous travaillez en permanence à la conception de nouveaux programmes ou à des projets discographiques. Votre dernier né en 2025, c'est le programme Sibylle. Qu'est-ce que c'est ?
Alors Sibylle, c'est un projet de théâtre musical cette fois-ci où j'ai mis complètement en scène un spectacle autour de la figure de la Sibylle. C'est un spectacle qui est destiné uniquement aux scènes de théâtre, donc parce qu'il y a un grand décor en fait, décor, costumes, etc. Donc qui exige des formes plus théâtrales et un dispositif avec une technique assez importante. Et en fait, je développe l'idée que la Sibylle, qui est une prophétesse de l'Antiquité, serait encore utile au XXIe siècle. Parmi nous, est-ce qu'elle serait encore vivante, peut-être présente parmi les autrices ou les chercheuses, les poétesses qui nous entourent. Voilà, donc c'est un aller-retour finalement entre l'Antiquité, aujourd'hui, mais aussi au Moyen-Âge où on la retrouve et elle a été mise en valeur à tas de reprises par des peintres ou alors des écrivains et des musiciens. Je pense notamment à Roland de Lassus qui écrit les 12 prophéties de la Sibylle. Voilà, donc c'est un spectacle très riche en termes de musique parce qu'il y a beaucoup d'époques différentes, de la musique antique à une création contemporaine de Zad Moultaka et en termes aussi de mise en scène.
Zad Moultaka, compositeur libanais qu'on connaît à Toulouse parce qu'il avait composé notamment une œuvre pour le chœur Les Éléments. Donc ça, c'est le programme Sibylle. Et puis, je crois que vous nous préparez quelque chose pour la rentrée en septembre, un programme que vous avez intitulé Obsession.
Exactement, Obsession, c'est plutôt l'idée d'un travail autour de la musique minimaliste ou répétitive, puisque par essence, elle est obsessionnelle. Elle est quelque chose qui s'inscrit en nous et qui nous rend curieux d'en savoir toujours plus sur la suite et qui nous prend comme ça sans nous lâcher. Et donc du coup, pour ce qui est de la musique, j'ai travaillé sur 3 compositeurs, Arvo Pärt avec le fabuleux Miserere, Philippe Glass, qui est vraiment indissociable de la musique minimaliste, et un compositeur moins connu, Jean Alain, compositeur pour orgue qui a écrit les 3 danses que j'ai moi-même transcrites et orchestrées pour la version qu'on va faire. Et donc, ce qui est important de savoir sur ce spectacle que nous créerons le 25 septembre à la Philharmonie, c'est surtout qu'il est immergé dans une scénographie assez monumentale, faite de tentures, de tissus, obsessionnels aussi dans les motifs, qui tombent du plafond et qui font à peu près une dizaine de mètres de haut, à plusieurs reprises sur scène comme ça, et qui vont bouger, évoluer grâce à des lumières et une interaction permanente entre la musique et les tissus et la lumière.
Un grand merci Simon-Pierre Bestion d'avoir été l'invité de cette émission. Je rappelle donc que la compagnie La Tempête donne les Vêpres de Rachmaninov ce lundi 25 août à 21h à l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac. Les places sont à acheter et à réserver en ligne sur le site www.rockamadourfestival.com. Il en reste encore quelques-unes, mais il ne faut pas tarder si vous voulez assister à ce concert. Pour ma part, je donne rendez-vous à nos auditeurs demain à 13h30 pour le dernier entretien avec un musicien programmé lors de ce festival 2025. Très bon après-midi à tous à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.